Longtemps, hein? Donc merci de prendre place. Ok. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je vous propose un exposé sur le programme de conférences de l'UTB pour l'année qui vient, 2018-2019. C'est à peu près le même que celui que j'ai pu faire au mois de mai. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas adhérentes à l'UTB qui sont venues ? Levez le bras, s'il vous plaît. Bon, et, alors deuxième question, celles qui sont dans ce cas-là, est-ce que vous avez su que la séance avait lieu grâce au forum des associations ? Vous levez le bras si c'est oui. D'accord, ok. Bien. Donc, allons-y. Alors, traditionnellement, nous faisons toujours, donc, vous avez tous une petite plaquette programme. Si vous ne l'avez pas, on peut vous en donner, là, à l'accueil. Et donc, je vais vous faire un exposé global sur les conférences de la prochaine saison. Il y aura une deuxième séance dans deux semaines pour les ateliers. Voilà, baisse un peu l'aigu là. Donc mardi, dans 14 jours, on aura une séance où les responsables des différents ateliers viendront vous exposer un petit peu ce qu'ils proposent et la façon dont ça fonctionne. C'est moi qui assurerai l'enchaînement des exposés, et là, on va se concentrer sur les conférences. Alors, voilà la couverture de la... Alors, je répète ce que je dis depuis des années, nous avons un programme qui est très volumineux, on a 117 conférences, donc pratiquement une tous les jours en période scolaire du mois d'octobre au mois d'avril, quelquefois deux conférences par jour. On cherche à avoir un spectre de sujets le plus large possible. Alors on essaye également de faire ce qu'on appelle des thèmes transversaux, c'est-à-dire des thématiques qui sont adressées par des conférenciers différents. En particulier dans l'histoire de l'art, c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue de conférenciers différents sur des sujets qui ont été traités, le même sujet qui a été traité, mais avec une sensibilité différente. Donc voilà les thèmes que nous avons sélectionnés pour l'année qui vient. Donc en histoire de l'art qui est la base de notre programme, donc qui représente plus d'un quart de nos conférences, l'art contemporain, la science et l'art, l'école de Paris, Montparnasse, et les peintres russes et anglais du 19e. Anglais c'est plus connu, les peintres russes c'est un peu méconnu, c'est pour ça qu'on a proposé cette thématique-là. Et pour la partie historique, nous avons pris la Renaissance en histoire de l'art. Mais on a également pris la Renaissance dans le thème historique, puisque depuis des années, on suivait les périodes, on est passé du siècle des Lumières au 18e, au 19e, au 20e. Et donc, on a fait une petite marche arrière. Là, on va repartir à la Renaissance. La Renaissance... également la Renaissance politique. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, on a quand même un thème sur la partie contemporaine, la France entre les deux guerres. Mémoire de la guerre 14-18, comme j'ai déjà dit, on n'a pas voulu refaire des conférences spécifiques sur la guerre 14-18 parce qu'au mois de novembre, on va être gavé dans tous les médias par des reportages, des magazines, des choses comme ça. Donc l'idée, c'était de trouver quelque chose, un angle d'attaque un petit peu original. En philosophie, On va parler de Jean-Jacques Rousseau, mais sur des sujets qui sont méconnus dans son œuvre. On a déjà traité les grands classiques, le contrat social, etc. On va parler en géographie ou en géopolitique de l'histoire méconnue de pays excentrés, l'Irlande, l'Arménie, le Liban, la Libye et les pays baltes, dont on sait les noms, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y est passé. La place des femmes dans la société, hier et aujourd'hui, l'aéronautique, histoire et technique, et les défis modernes des changements de la société. Donc, allons-y, on va faire défiler les conférences par thématique. Vous voyez bien, là, c'est bon? Alors, allons-y. Alors, première conférence, premier cycle de conférence, Annick Speck qui s'intéresse, mais elle nous le dit depuis des années, sur la photo en tant qu'objet d'art. Elle ne nous a jamais fait de conférence sur la photo, donc on a accepté le thème qu'elle nous proposait. Donc en trois conférences. Mais il y aura un rebondissement avec une conférence de sociologie sur le sujet, j'y reviendrai. Ensuite, donc, on a un petit peu balayé toute la période pré- et impressionniste. Donc on a demandé à Claudie Roget de refaire ainsi qu'elle avait fait il y a 10 ans déjà sur l'école de Paris à Montparnasse. Donc c'est beaucoup plus loin, c'est une génération après la fin des impressionnistes. Et donc vous voyez quelques exemples emblématiques de peintres, Modigliani, Man Ray et Fernand Léger. Ensuite, histoire de l'art, les grands musées d'art, donc Damien Capelazzi, nous lui avons demandé de parler des deux grands musées d'art, qui est un support à un voyage qu'il va proposer l'an prochain à Saint-Pétersbourg, le musée de l'Ermitage. Ceux qui connaissent déjà, mais c'est la même chose pour le musée des Offices à Florence, ce sont des musées absolument gigantesques comme le Louvre, et on ne peut pas, en une seule conférence, balayer toutes les richesses de ces musées. Donc, on lui a demandé de se focaliser sur la période Renaissance, aussi bien à l'Ermitage qu'aux Offices. Alors, les peintres russes et peintres anglais du XIXe siècle. Alors, nous avons demandé ça à Mathieu Pinette pour sortir un petit peu de l'Europe occidentale, on va dire, qui est quand même le berceau de l'histoire de l'art, on va dire, occidental. Mais à la marge, c'est intéressant de voir les spécificités de ces différents peintres, comme par exemple Ilyar Repine en Russie, et Whistler et Tissot qui est anglais mais qui est un nom français, qui fait quelque chose qui ressemble un petit peu au pré-raphaélite, si vous voulez. Alors, on va passer à un sujet d'histoire moderne, puisque cette idée nous a été donnée par Patrice Debré, qui est médecin, qui est venu nous faire des conférences sur la biologie l'an dernier. Il va revenir cette année. Et son père n'était ni médecin ni juriste comme toute la famille. Il était peintre. Et donc, ça nous a semblé intéressant qu'on décrive un petit peu son œuvre par une spécialiste de ce peintre. La figure de la femme dans la spiritualité chrétienne, donc M. Curnier-Laroche, vous savez, qui est prêtre à Sensee, mais qui est quelqu'un de très pointu en histoire de l'art, évidemment sur l'art sacré. Et donc, on peut dire que ça fait partie du thème de la place de la femme en général à travers les âges. Euh, en art contemporain, Roger Courreau, qui nous a fait déjà quelques artistes, va parler de Richter et introduction au cubisme braquet Picasso, c'est-à-dire c'est la période intermédiaire entre la fin des impressionnistes et l'école de Paris, le Montparnasse. Ah, voilà le sujet que Frédéric Cousin nous a proposé, parce qu'il a fait à titre personnel un reportage photographique dans tous les lieux de mémoire en 14-18. Il a fait pratiquement tous les sites. Et en deux conférences, il va essayer de nous restituer un petit peu l'horreur de cette guerre qui, même aujourd'hui, paraît impensable. Mais bon, donc, pas d'événementiel, simplement une évocation et un souvenir de ces événements tragiques. Alors, en miroir de cette conférence, nous aurons l'art pendant la guerre 14-18. Et l'art, il y a une composante très importante, c'est l'art de propagande autour de l'effort de guerre. Et donc, nous avons demandé à M. Vion-Delphin de faire deux conférences, enfin même trois, deux sur l'art français pendant la guerre 14-18. Vous voyez ici une image patriotique, entre guillemets, tout à fait emblématique de la période, et là, l'équivalent côté allemand. Cyril Brûlé, qui est architecte, va continuer son cycle sur les maisons d'architectes. Hein, donc, voilà deux exemples emblématiques, Mies van der Rohe et Alvar Aalto. Alors, on invite bien sûr à nouveau Madame Annick Le Guerrer, qui nous a charmé depuis déjà deux saisons, et là, ça sera sa troisième venue. C'est la grande spécialiste de l'histoire du parfum, disons en Europe occidentale et en général. Et elle vient non seulement nous faire un exposé, mais elle amène chaque année ses petits flacons et ses buvards qui permettent au public de tester les différentes essences. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, il se trouve que nous venons de faire un voyage en Allemagne et nous sommes allés à Cologne et nous avons vu l'eau de Cologne, et en particulier cette petite bouteille qui a été inventée par Jean-Marie Farina et exportée dans toute l'Europe et en particulier en France. Alors, histoire de l'art, l'alimentation dans l'art. Que nous disent les peintres du modèle alimentaire français, c'est-à-dire les peintures de genre comme ça ne sont pas simplement qu'une figure de style et une prouesse picturale, mais également les choix de ce qui est représenté sont aussi un miroir des habitudes alimentaires du pays du peintre. Donc il va nous faire un exposé là-dessus. Alors, histoire de l'art, la libération de la femme dans la toilette. Je n'ai pas pu résister à cette petite séquence qui est bien connue. Et donc, plus la femme prend d'importance, plus la taille de ses sous-vêtements diminue. Je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les deux, mais il nous expliquera tout ça. Voilà. En fait, le sujet, ça va plutôt être l'histoire des corsets, des soutiens-gorge, des choses comme ça, et en disant la tiraille très compliquée que les femmes avaient jusqu'à une période récente, comment tout ça a disparu et pourquoi ça a disparu. Toujours, alors donc nous avons déjà parlé d'un marchand d'art cette année, Françoise Vassovlev. On en prend un deuxième, c'est Ambroise Vollard, qui également a eu une influence très forte sur le mouvement des impressionnistes. Alors, l'histoire, également un très gros morceau, avec beaucoup de points de chute et de thématiques très variées. Alors, traditionnellement, on les classe selon cette grille-là, vous voyez, et donc je vais les passer très rapidement en vue. Alors, on va parler de l'argent et de l'usure au Moyen-Âge entre défiance de l'Église et réalité économique. Donc, c'est un nouveau conférencier que nous ne connaissons pas et donc il nous a proposé ce thème-là. Je pense que c'est intéressant et on verra l'aspect, l'inconscient qui tourne autour de l'argent et les relations avec l'Église qui, comme vous le savez, était à cette époque-là fort riche et qui était le moteur de l'activité économique. En histoire médiévale, M. Clemenceau nous parlera de la chevalerie. Alors la chevalerie, c'est une curiosité, ça on ne le sait pas, parce qu'on a l'impression que c'est... Seul l'Occident médiéval a fait apparaître ce concept de chevalerie. Ça n'existe dans aucun autre continent et aucun autre pays. Et il va essayer d'expliquer pourquoi, par quel mécanisme cette institution est apparue et quel rôle elle a eu dans l'histoire. Et voilà donc la Renaissance, comme je l'annonçais en histoire de l'art, mais la Renaissance du point de vue historique et du point de vue politique. Alors là, je fais traditionnellement un petit quiz. Alors, qui est ce monsieur? Tout le monde le reconnaît? Laurent le Magnifique, qui était, comme chacun le sait, absolument d'une laideur repoussante. Hein. On lui a donné le nom de Le Magnifique au XIXe siècle parce que c'est la période d'explosion artistique, mais aussi la période du pic des guerres civiles. Ici, tout le monde reconnaît ça, la seigneurie de Florence, hein, donc c'est là qu'il était. Vous reconnaissez tous François Ier et Henri VIII d'Angleterre, qui sont les deux monarques symétriques de la période, donc de début du XVIe siècle. Et on parlera également d'Élisabeth Ière, mais je n'avais plus de place pour mettre son image. Voilà. Alors ensuite, le contrepoint politique, eh bien, ce sont les autres monarques et les papes. Et les papes, vous savez, avaient un rôle politique très important. Donc, Michel Bonnet, qui a fait un petit ouvrage là-dessus, d'ailleurs, nous fera en deux séances les papes de la Renaissance et les principaux. Alors, je fais un quiz. Alors, celui-là, Alexandre VI. Alexandre VI, c'est César Borgia. Pas César Borgia. J'ai oublié le prénom, c'est un Borgia, le père de César Borgia. Puisque vous savez qu'il avait beaucoup d'enfants, dont Lucrèce Borgia. Et le deuxième, le barbu, il est célèbre, c'est Jules II. Jules II, c'est la chapelle Sixtine. C'est lui qui était le commanditaire de la chapelle Sixtine. Dessous, vous reconnaissez donc Charles Quint, Carlos Cinco, et son fils, Philippe II d'Espagne. Alors maintenant, on va partir dans des pays excentriques par rapport à la France, ou excentrés, et donc on va faire l'histoire de l'Irlande. Ça m'a paru intéressant à cause du Brexit. On parle beaucoup du Brexit, et vous savez qu'un des points d'achoppement du Brexit, c'est le fait de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui est au sud-ouest. Par contre, pourquoi on a cette partition ici? Eh bien, il faut expliquer tout ça historiquement. C'est très compliqué. Et il y a eu une guerre civile dans les années 1916-1922. Et la partie républicaine a arraché son indépendance, après une guerre civile assez sanglante, au Royaume-Uni. Et donc, vous verrez là le... C'est intéressant, il faut resituer ça, il faut se remettre ça dans la tête pour bien, mieux comprendre les enjeux du Brexit. Entre autres, c'est un des éléments d'achoppement dans les négociations. Autre chose, les pays baltes. Alors, les pays baltes sont vous savez où ça se trouve, c'est le long de la Baltique, et c'est à la charnière de l'influence des pays scandinaves et de la Russie. Et donc, sans arrêt, ils ont été ballottés entre ces deux sphères d'influence, et ils ont subi aussi beaucoup d'outrages au cours des siècles. Et depuis la dernière guerre, ils sont à nouveau indépendants, il y a trois pays baltes, et sont toujours inquiets des velléités un petit peu hégémoniques de leurs voisins russes. Donc on nous expliquera tout ça. Ce sera couplé avec un voyage qui a déjà été organisé et que l'UTB de Monceau a fait, et donc on reprendra le circuit qui a été mis au point par l'UTB de Monceau. Alors, revenons à la France contemporaine, c'est-à-dire XXe siècle, et on va parler de l'entre-deux-guerres et des hommes politiques emblématiques de la période. Alors là, c'est le petit quiz aussi. Alors, celui-là, c'est qui ? Celui-là. Celui-là. Oui, et celui-là. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc vous avez 10 sur 10, voilà. Alors ensuite, l'engagement des intellectuels avant la guerre 39-45, on a beaucoup reproché à ce qu'on appelle aujourd'hui les intellectuels. La France est le seul pays au monde où on a une secte qui s'appelle les intellectuels. Ça n'existe dans aucun autre pays au monde. Mais on est toujours spéciaux, hein. La France, on n'est pas comme les autres. Et donc, on nous a proposé un exposé sur cette chose-là pour dire, ben, finalement, ils ont été quand même pas très clairvoyants et prémonitoires dans la période de la montée de l'hitlérisme. Donc on écoutera ça avec intérêt. Et puis Robert Chantin, qui, comme vous le savez, est un spécialiste de la résistance, de l'histoire de la résistance, en particulier en Saône-et-Loire, puisqu'il a fait sa thèse sur ce thème, va nous parler d'un résistant lyonnais, Justin Godart, dont j'avais jamais entendu parler, mais qui a effectivement un rôle tout à fait important dans l'action de la résistance. Alors, maintenant, nous allons parler d'un homme qui est très méconnu, hein, c'est Lord Mountbatten. Alors, Lord Mountbatten, c'est un oncle de la reine Elisabeth II actuelle, hein, qui a eu une carrière, militaire et diplomatique tout à fait éblouissante. Il a fini vice-roi des Indes, c'est-à-dire c'était le dernier dirigeant anglais en Inde en 1947, au moment de l'indépendance, et il a été assassiné par l'IRA sur son bateau dans les années 80-90, je ne me souviens plus exactement de la date, dans la guerre civile menée par l'IRA. Donc c'est François Kersaudy qui nous a régalé avec De Gaulle et Churchill, et qui est spécialiste un petit peu des grandes figures de guerre du XXe siècle, et donc avec son style inimitable, il va nous parler de ce personnage que l'on connaît mal et qu'il vendra d'ailleurs l'ouvrage qu'il a fait sur cet homme-là à la fin de sa conférence. Alors, la Russie sort par la fenêtre et on rentre par la porte. On va à nouveau reparler de la Russie et de voir et de parler en particulier du tsar actuel qui s'appelle Vladimir Poutine, et de voir quel est son rôle et quelle est sa politique. Et il faut en tenir compte, bien sûr, donc pour comprendre tous les ressorts de la politique internationale actuelle. Alors, Madame Roux, qui nous faisait la Renaissance, m'a demandé une conférence supplémentaire en disant « Moi, je veux absolument, c'est les 50 ans de 1968, il faut parler de 1968, et dans le monde, puisque on a un peu oublié aussi, c'est que dans dans le monde entier, il y a eu des mouvements un petit peu similaires au mouvement français, et de voir quels étaient leurs ressorts et quel est l'héritage de cette période. Histoire industrielle, donc ça fait 2 ans que M. Luneau vient nous voir, qui est un professeur de physique, de chimie plus exactement, à Besançon, et il va nous parler de l'histoire de la soie artificielle, c'est-à-dire la rayonne, hein, la viscose, des choses comme ça. Et ça paraît à la soie aujourd'hui, tous ces textiles artificiels n'ont été inventés qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et on connaît leur poids économique dans l'industrie textile. Alors, il va nous faire une deuxième conférence sur l'alchimie. J'ai trouvé un magnifique grimoire, une magnifique image là, d'un alchimiste. Alors, l'alchimie, c'est le prédécesseur de la chimie, tout seul. Et donc, c'est grâce à l'alchimie que la chimie moderne et scientifique s'est développée, mais c'est intéressant de voir un petit peu l'histoire, qui n'est pas si facile que ça à faire, puisque vous savez qu'une des présupposés de l'alchimie, c'était d'être secret. C'est un peu contradictoire avec l'idée scientifique. Mais tout en étant secret, tous ceux qui faisaient de l'alchimie communiquaient entre eux, disons par des moyens épistolaires, et c'est petit à petit, c'est par leurs travaux qu'on a fini, que les vrais chimistes ont fini par émerger à la fin du XVIIIe siècle, comme bien sûr Lavoisier. Lavoisier, on peut dire, c'est le fondateur de la chimie scientifique moderne. Alors, c'est pas par hasard qu'on a accepté cette conférence, puisque l'année prochaine, donc c'est 2019, c'est le 150e anniversaire, c'est l'année internationale de la classification périodique des éléments chimiques, mise en place par Mendeleïev. Alors j'avais déjà fait une conférence là-dessus il y a quelques années, et je vais la refaire, je vais la reproposer au lycée, hein, puisque en fait, il faut en parler surtout au lycée, aux classes de terminale dans les lycées. Je l'avais fait à Pontus, je vais le reproposer. S'il y a des personnes qui sont intéressées, ils pourront être associés à cette nouvelle édition de l'histoire de la classification périodique des éléments. Donc, l'année prochaine, c'est l'année internationale de la classification périodique. Alors, histoire des sciences, l'an dernier j'ai fait 2 conférences sur le nucléaire militaire et le nucléaire civil, une sur la bombe atomique et une sur le début du nucléaire civil. Ça m'a semblé intéressant d'expliquer les débuts du CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Aujourd'hui ça s'appelle Commissariat aux énergies alternatives, vous savez, on a un talent fou pour trouver. On ne change pas le signe, mais on change l'étiquette ou la plaque. Et je ne pouvais pas trouver mieux que Jean-Pierre Pervès, qui est déjà venu l'an dernier, qui a été directeur du centre de Saclay, pour nous parler de ça. Je répète ce que j'ai dit dans des conférences précédentes. La France a été le premier pays au monde à avoir ce qu'on appelle le CEA. Puisque le deuxième pays, ça a été les États-Unis, ça s'est fait 16 mois après la fondation du CEA français. Et comme vous le savez, c'est De Gaulle qui a lancé cette structure qui existe toujours aujourd'hui, bien sûr, vous le savez. Deuxième conférence d'histoire des sciences, l'histoire de la médecine arabe. On ne pouvait pas faire mieux que demander à Ahmed Djebbar de nous faire ça. Ahmed Djebbar, c'est notre conférencier sur l'histoire des mathématiques, mais il nous parle aussi d'islam et de choses comme ça, puisque je rappelle qu'il était ministre de l'éducation nationale en Algérie, hein, dans les années dures des années 90, Et donc, il a, évidemment, comme il est de culture arabe, il a accès facile à toutes ces sources. Toujours dans la médecine, Robert Debré, donc Robert Debré, c'est l'inventeur de la pédiatrie, hein, et il a eu un fils, il a même eu deux fils, mais un fils qui est célèbre, c'est Michel Debré, qui a été Premier ministre, hein, et des petits-fils, dont parmi ses petits-fils, Patrice Debré, qui est venu déjà deux fois chez nous, et qui va nous parler, il vient de sortir un bouquin sur l'histoire de son grand-père, qu'il admire bien sûr beaucoup. Hein. Alors, histoire des techniques. Donc, Jacques Folléas, qui nous avait fait une conférence l'an dernier sur l'aviation militaire en 39-40, une conférence extrêmement documentée avec beaucoup d'appareils différents, je lui ai demandé d'élargir un petit peu le scope et d'essayer de comprendre le rôle de l'aviation dans les deux conflits mondiaux en 14-18 et en 39-45 pour bien voir l'effet d'évolution technique très rapide apportée malheureusement par le conflit. Alors, en contrepoint de cette conférence, Claude Lyonnais va parler de l'entre-deux-guerres. Et l'entre-deux-guerres, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres? C'est le début de l'aviation commerciale. Alors, il n'y avait pas que des avions, il y avait aussi des dirigeables, comme vous le savez. Et c'était l'époque bénie. C'est lui qui a trouvé le titre, hein, « Luxe et volupté dans les airs ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'était réservé à une clientèle très fortunée et qui était bichonnée au possible. Mais si on voulait faire des voyages dans les avions de l'époque aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas possible qu'on ait accepté de voler dans des conditions pareilles. Voilà. Et troisième conférence. Comme j'ai fait une conférence sur la bombe atomique américaine, eh bien, ça m'a semblé intéressant de faire le symétrique avec la bombe française. Et la bombe française, c'est Christian Buchalet qui va nous en parler. C'est le fils du monsieur que vous voyez ici, qui est le général Buchalet, qui était le chef de projet de la bombe française. Donc, il se trouve que son fils est un de mes très bons copains. Et je lui ai demandé de faire cette conférence. Parce qu'il a accès, tous les papiers personnels du général Buchalet sont dans son garage. Et donc il dit, ben, c'est bien que tu me demandes ça, parce que ça va me donner l'occasion de les regarder. Et depuis le décès de mon père, je n'ai jamais ouvert les cartons. Donc ça va le faire travailler. Dans le cycle sur l'histoire de l'hôpital, vous savez qu'on a commencé, donc c'est avec l'association Abigail Mathieu, eh bien, on fait par périodes successives et on va parler des Trente Glorieuses. On ne peut pas faire d'histoire pendant la guerre parce que malheureusement, pendant la guerre, toutes les archives de l'hôpital ont été perdues. Donc, on n'a pas de document qui ait subsisté sur l'hôpital de Châlons. Histoire des civilisations. Alors, l'an dernier, Vincent Guichard, qui est directeur de Bibracte, venait traditionnellement à toute fin de saison, fin avril. Il a eu des problèmes et des empêchements, il n'a pas pu venir. Donc, il nous a proposé de faire la conférence qu'il avait initialement prévue sur les monnaies celtiques, parce qu'il y a un support d'une exposition qui est en cours au musée du Mont-Beuvray. Donc il y aura la conférence et ensuite on pourra faire une sortie pour aller voir cette exposition. J'ai mis les accords entre mai et 20 de Brillat-Savarin. Donc Laure Ménétrier, c'est la directrice des musées de Beaune qui nous a proposé ce sujet. Et l'idée d'associer des mets au vin, qui paraît aller de soi aujourd'hui, ça a été inventé par Brillat-Savarin. Avant, on ne faisait aucune association entre la nature du vin et la nourriture qu'on proposait. Donc, elle va nous expliquer tout ça. C'est un petit peu le contrepoint de la conférence dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'histoire de l'alimentation dans l'art pictural. Histoire du Liban, donc on a parlé de l'Irlande tout à l'heure, maintenant on parle du Liban. Le Liban, eh bien, c'est le nœud, comme vous le savez, de toutes des frictions entre l'Occident et l'Orient depuis des temps immémoriaux, et ça continue, malheureusement. Et sans remonter jusqu'aux Phéniciens, mais presque, on pourrait en dire beaucoup sur le Liban. Donc c'est intéressant d'écouter cette conférence parce que on aura d'autres conférences sur le Moyen-Orient beaucoup plus générales, mais c'est intéressant d'avoir ce petit éclairage sur ce pays charnière. L'Arménie aussi, le nom est connu, mais pour beaucoup d'entre nous, à part Charles Anzavour, on ne connaît pas beaucoup de choses sur l'Arménie. Hein. En fait, c'est le premier pays chrétien, disons, d'Asie, on va dire. Et comme vous le savez, il est cerné par des pays soit chrétiens orthodoxes, soit musulmans. Et donc, lui aussi, c'est un pays qui a subi beaucoup d'avanies dans l'histoire. Histoire des religions. Alors là, j'ai obtenu, j'avais envie depuis des années de faire quelque chose sur la religion juive, dont tout le monde parle mais que personne ne connaît, sauf ceux qui la pratiquent. Et donc, j'ai demandé à M. Waknin, qui est dentiste au Creusot, mais qui est également chef de la communauté israélite, de nous parler des fêtes religieuses du judaïsme, qui sont qui ont des correspondances dans les fêtes chrétiennes, mais pas seulement. C'est beaucoup plus compliqué. Donc derrière ces fêtes, il faut avoir une certaine lecture de l'Ancien Testament. Une conférence de géographie, en fait, qui était la fin d'un cycle que M. Lyonnais a fait l'an dernier, puis il n'avait plus le temps de traiter tous les sujets, donc on va parler de la zone de Londres et du Kent, qui ont une spécificité particulière. Ensuite, la littérature. Alors, de la même façon que nous sommes allés en Russie et en Angleterre pour les tableaux, au XIXe siècle, eh bien, on va faire le pendant dans la littérature. Et on a pris, Stéphane Le Quiddick a pris le thème du fantastique au sens élargi du terme. Donc, vous avez tout ça. Alors, on revient sur le thème de la femme dans l'histoire. Et donc, les femmes poètes au XVIe siècle. XIVe siècle. Et donc, madame, une nouvelle conférencière va nous parler du début de la poésie féminine. Vous savez que dans toute l'histoire de l'art, les femmes ont été gommées pour des tas de raisons. Mais il y en a quelques-unes qui ont émergé quand même et dont le souvenir est resté. C'est intéressant d'écouter cette thématique. Et puis, un de nos adhérents, dans le cadre des lundis de l'UTB, nous fera Henning Mankell, qui est très à la mode en ce moment et qui a beaucoup de succès dans les romans policiers. On va parler également de deux poète et peintre, Paula Modersohn-Becker, Elle est peintre et vous voyez ses œuvres et elle a fait son autoportrait. Donc elle ne s'est pas... elle ne s'est pas magnifiée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'était la compagne de Rainer Maria Rilke. Question de société. Donc, comment s'y prendre avec le créationnisme? Alors, M. De Terre, c'est un prêtre, mais qui est chercheur au CNRS, et qui s'interroge beaucoup sur la philosophie des sciences, et en particulier, vous savez qu'aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, le créationnisme reprend de la vigueur, et il y a des batailles assez fortes pour contrer, enfin, mettre en doute la théorie de l'évolution. Donc, il faut remettre un petit peu à jour tout l'argumentaire autour de cette thématique-là. Nous avons demandé à M. Bruno Legourd, donc l'ancien directeur de l'hôpital de Châlons, qui a pris sa retraite au mois de janvier de cette année-là, de nous parler de l'évolution de l'hôpital. Et Dieu sait si les grands médias en parlent beaucoup en ce moment. C'est facile d'en parler, de pleurer et de crier, mais le sujet est compliqué et difficile. Donc, c'est intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui vient du système et qui a eu plus de liberté de parole qu'il pouvait en avoir quand il était en fonction, si vous voulez. Alors, voilà un de mes grandes fiertés. J'ai réussi à convaincre Jean-Louis Blanco. Jean-Louis Blanco, qui est aujourd'hui président de l'Observatoire de la laïcité et qui était secrétaire général de l'Élysée du temps de Mitterrand. Et il l'a été pendant 11 ans. Donc c'est un observateur aigu de la société française. Et donc j'ai encore eu son assistante ce matin au téléphone, donc il confirme bien, il viendra au mois d'octobre. Donc pour une conférence qui se passera en fin d'après-midi à l'IUT. Et dans la liste des grandes vedettes, j'ai convaincu M. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, de venir nous parler de son ouvrage « Dictionnaire amoureux de la République ». Donc, vous imaginez qu'il faut que notre sex-appeal de l'UTB de Châlons soit fort pour qu'on arrive à faire bouger ces monstres sacrés. Tant qu'ils ne sont pas là, mais j'ai un accord de principe, donc on vous en parlera, parce que là, il y a toujours un problème sur les dates. Il voudrait venir en même temps que son cousin, donc Patrice Debré, mais bon, il faut gérer les calendriers. Voilà, pour le moment, ce n'est pas encore acquis. Sinon, ils viendront séparément. Psychologie cognitive. Alors, monsieur Patrick Bonin, il est venu nous faire des choses très intéressantes sur le langage et des choses comme ça. Donc, cette année, il nous a proposé ce sujet-là, le rythme de vie. Et Dieu sait si c'est un sujet actuel, non pas seulement pour les actifs, mais même pour les retraités que nous sommes tous, on n'y arrive pas. Hein. Vous devez vous en être rendu compte. Donc, il va nous expliquer tout ça. Alors, je l'avais sous-entendu tout à l'heure, M. Pascal Mauny, qui est l'ancien directeur de l'IUT, et maintenant il a repris son poste d'enseignant en logistique, mais il a une formation de sociologue. Et il m'a proposé comme sujet la sociologie de l'art. Ça veut dire quoi, la sociologie de l'art? C'est comment le public, sinon les artistes, se positionnent vis-à-vis de ce qu'on appelle l'art. Et pourquoi l'art, telle forme artistique, a du succès ou n'en a pas, c'est pas seulement quelque chose d'objectif, mais c'est bien sûr quelque chose de subjectif. Et là, j'ai pas résisté au plaisir de mettre un tableau que je vous avais montré il y a 2 ou 3 ans, là, de Norman Rockwell. On voit la mamie avec son petit fichu qui regarde une peinture tout à fait classique, du style Winter Alter ou John Sargent, et une dame en jean avec un carton sous le bras qui regarde un Matisse ou je ne sais pas quoi, ou un Van Gogh, enfin je ne connais pas le tableau. Donc c'est intéressant d'écouter cette analyse. Et puis les femmes et l'éducation au XIXe siècle, quelle perspective professionnelle? Eh bien, j'en ai un peu parlé, j'ai fait une conférence l'an dernier sur les femmes scientifiques au XIXe et XXe siècle, et en particulier le fait qu'elles aient du mal à faire de la science parce que l'accès à l'université leur était interdit. Et là, j'ai mis la belle Kovinskaya, qui était une mathématicienne russe, morte jeune, qui a été célèbre en son temps, à la fin du XIXe siècle. Alors, on essaye d'introduire quelques conférences un petit peu exotiques dans notre programme, parce que on va, pour ne pas nous taxer d'intellectualisme forcené. Et donc, il y a une personne que certains d'entre vous peuvent connaître, Didier Pommet, qui est un marcheur, un trekker, qui est allé dans plus de 90 pays du monde et qui fait des marathons et qui a fait deux ouvrages sur sa vie et sur ses motivations. Et d'essayer de comprendre, de transmettre au public pourquoi il fait ça. Et ça, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre. Alors, c'est facile d'avoir un contact avec lui, puisqu'il se trouve qu'il travaille à la ville de Chalon et il est à la vie associative. Donc c'est comme ça, en discutant incidemment, comme ça, entre deux portes, que ce sujet est venu dans la conversation. Puis je lui ai dit, mais pourquoi vous ne feriez pas un exposé là-dessus? Oh, si vous voulez, donc on aura le plaisir de l'écouter. Philosophie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de l'œuvre de certains aspects de l'œuvre de Rousseau, Essai sur l'origine des langues, La métaphysique religieuse de Jean-Jacques Rousseau et Le discours sur l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau. Donc, par trois philosophes différents. Et je reviens sur les femmes et les hommes. Hommes-femmes, quelle différence? C'est ce qu'on appelle dans la presse magazine un marronnier, c'est-à-dire ça revient quand on ne sait plus quoi dire, on met ça comme sujet sur la couverture du magazine. Ben, on va le mettre au programme de l'UTB, puis on va essayer de faire ça d'une façon sérieuse et d'avoir un éclairage par une philosophe. Parce qu'évidemment, on peut le regarder sous différents aspects, philosophie, sociologie, biologie, psychologie, etc. J'en passe des meilleurs. Mais c'est intéressant d'écouter une philosophe. Alors, en contrepoint de ça, eh bien, pour le droit, encore un sujet qui est lié à la femme. Et donc, on a demandé à Hélène Tourard de nous parler de la législation sur l'IVG en Europe. Et vous savez que tous les ans, il y a des évolutions sur ce sujet-là et de voir les arguments qui sont proposés par les différents parlements des différents pays. Alors, la géopolitique. Vous savez que Lionel Véran nous parle régulièrement de la Chine, et la dernière fois qu'il nous en a parlé, c'est il y a 3 ans, on va dire, encore la Chine. Il a dit, en 3 ans, la Chine a plus bougé, a plus évolué que dans les 20 années précédentes. Donc, ça vaut le coup de refaire une conférence sur la Chine, parce que il faut prendre conscience, parce que, si vous voulez, pour faire court, la Chine a pris conscience maintenant de sa puissance réelle et elle veut imposer sa vision du monde au reste du monde. C'est pour ça que M. Trump a des boutons, entre autres. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc M. Véran nous a parlé de Trump l'an dernier, donc on reparle de la Chine, mais je pense qu'il réintroduira d'une façon ou d'une autre M. Trump. la Libye et les migrants, donc sujet chaud et très difficile. Il faut parler de la Libye. Pourquoi on est dans la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui? Et ça vient pas, c'est pas venu brutalement. Les origines sont très lointaines et on essaiera de comprendre tous les ressorts cachés de cette catastrophe humanitaire, on peut dire, que l'on vit aujourd'hui. Parce que malheureusement, ça n'est que le début du phénomène et on pourra bien mettre tous les barbelés et les barrières que l'on veut. Il faudra bien trouver des moyens de résoudre le problème. Alors, voilà une conférence qui viendra. C'est un ami de Lionel Véran, c'est un enseignant qui est à la retraite et qui était au Luxembourg et qui nous propose une conférence. J'ai lu un peu des articles qu'il a fait sur Internet et il a dit tout ce qui tourne autour du Tibet, il y a beaucoup d'intox, en particulier tout ce qui tourne autour du Dalai Lama, beaucoup d'intox qui sont fausses et il veut remettre un petit peu les choses au centre. Donc on l'écoutera avec intérêt. Et voilà encore un abcès qu'on connaît, on en parle tous les jours dans les médias. Donc le Moyen-Orient, qui est une poudrière, comme vous le savez, mais ça fait longtemps que ça dure et ça va durer encore un certain temps. Donc on a demandé à Bruno Benoît, qui est notre géopoliticien brillant et très convaincant au niveau de ses discours. Il vient de Sciences Po Lyon et il nous fera d'abord un état des lieux comme il l'avait déjà fait plus ou moins dans d'autres conférences et surtout essayer de décoder l'entrelacs des conflits actuels. Alors, l'amiral Koldofi, qui nous parle toujours de stratégie militaire, donc, comme c'est un amiral, il aime bien qu'on fasse des sujets autour de la marine. Et alors, le sujet, c'est est-ce que la marine française a les moyens de ses ambitions, ou les moyens de l'ambition de la France, si tant est qu'elle en est. Alors, il va sûrement dire oui, mais on pourrait faire mieux. Et en particulier, d'ailleurs on en reparle à nouveau dans les médias, est-ce qu'il faut un deuxième porte-avions ou pas? Le gouvernement vient de dire qu'on n'a pas de sous, on ne lancera pas un deuxième avant le milieu des années 2025. Alors, d'une façon générale sur la géopolitique, je fais un petit aparté là, on essaye de choisir des sujets qui ont un écho dans l'actualité chaude du moment. Évidemment, le Moyen-Orient, c'est un bon exemple, parce que ça donne un éclairage qui est complémentaire de tout ce qu'on peut lire dans les médias, qui est souvent soit simpliste, soit faux. Et voilà, le Bitcoin. Bitcoin, c'est pas Bitcoin, hein, Bitcoin, c'est la monnaie, crypto-monnaie. Alors, déjà, essayer de comprendre ce que c'est. Donc, c'est l'objet de la conférence. On en parle beaucoup. Vous savez qu'il y a une spéculation effrénée sur cette monnaie, c'est-à-dire la monnaie qui valait 1 au moment où elle a été lancée, elle vaut 1 million aujourd'hui, la même unité. Et donc, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il y a là-dessous, parce qu'on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. Donc, il y aura une tentative d'un conférencier pour essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette chose nouvelle. C'est une monnaie qui n'est pas régulée par une banque centrale, pour faire court. Et là, évidemment, on est un petit peu déstabilisé parce que qui contrôle ça? Par définition, personne, ou tout le monde, ou ceux qui sont branchés sur le système. Alors, dans les sujets d'actualité, alors le Bitcoin, c'est un sujet chaud. Il y a deux autres sujets qui sont également très chauds, mais qui sont méconnus du grand public. Premier sujet, la guerre des terres rares. Les terres rares, ce sont des... Alors, je reviens sur le tableau des éléments, là. Des éléments qui sont en très faible quantité. C'est ce qui fait, par exemple, tous vos composants électroniques dans votre smartphone et choses comme ça. Il y a des terres rares là-dedans. Les aimants qui sont dans les alternateurs d'éoliennes, il y a des terres rares. Les moteurs des voitures électriques, il y a des terres rares, etc., etc., etc. Il y a des terres rares partout. Sauf que les terres rares, comme le nom l'indique, il n'y en a pas beaucoup, et que s'il y a l'énergie verte dont on nous rebat les oreilles du matin jusqu'au soir, a besoin d'une ressource en terres rares qui soit très élevée. Eh bien, il semblerait, dans l'état actuel des connaissances, que ces ressources soient limitées. Et deuxièmement, un seul pays les maîtrise, c'est la Chine, à 98%. Donc là, il y a un problème. Et deuxièmement, pour extraire ces terres rares, eh bien, on dégage une quantité de CO2 qui est au moins supérieure à celle qu'on économise dans nos pays en se baladant en voiture électrique. Mais ce n'est pas chez nous, c'est chez le voisin. Donc, donc on va voir que tout ça, ce n'est pas si simple que ça. Et tout le discours qu'on entend aujourd'hui avec M. Hulot qui s'en va, qu'il faut faire des voitures électriques et tout, c'est très bien les voitures électriques chez nous. Enfin, c'est très bien, c'est un peu une solution. Sauf qu'on exporte finalement les problèmes écologiques chez le fournisseur de matériaux. Deuxième sujet, économie de la production d'électricité. Alors, ça c'est un sujet qui est très complexe, et là j'ai le meilleur spécialiste français, c'est Jacques Percebois, qui est prof à Montpellier et qui fait autorité en la matière. Et j'ai lu un de ses bouquins, plus grand public, ça mérite une explication. J'insiste beaucoup pour que, disons, tout ce qui est autour de la transition énergétique, ce qui est sous-jacent, ce sont les deux sujets que vous voyez là, mais dont on ne parle jamais dans les articles de journaux. On dit simplement, je veux qu'il y ait telle proportion de nucléaire, d'éolien, de solaire, de ceci, de cela, et on l'a dit ça dans la loi. Par contre, personne ne parle de la manière d'y arriver dans chacun des domaines. Donc, ces deux exposés pourront mieux vous éclairer. Biologie et médecine. Alors, j'ai découvert une nouvelle profession, c'est le conseil génétique en pathologie humaine. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? C'est tout simplement rechercher dans le génome des gens les gènes qui sont porteurs potentiels de maladies rares et génétiques. Et donc, on a pour ça deux conférencières, ça va être une conférence à deux voix, vous voyez leur nom, et ce sont deux jumelles qui habitent à Mâcon, et donc qui vont venir nous parler en particulier en conseil oncogénétique. Oncogénétique, c'est détecter les prédispositions génétiques vis-à-vis du cancer. Donc, on va écouter, je ne peux pas préjuger de ce qu'elles nous diront. Sciences et techniques, l'astronomie. Alors, à nouveau, art et astronomie. Je vous avais dit tout à fait au début qu'on essayait de faire, il y a plusieurs conférenciers qui nous ont proposé des conférences qui parlent des sciences dans l'art ou de l'art dans la science. Donc, voilà deux exemples. Il va parler des météorites, et à ma demande express, je lui ai demandé qu'il nous fasse une conférence sur le fonctionnement du GPS. Alors, le GPS, tout le monde s'en sert, personne ne sait comment ça marche, vous allez me dire, vous en fichez complètement, sauf que le GPS est, comme vous le savez, uniquement dans les mains des Américains. C'est un système américain, Et vous savez que l'Europe s'est dotée d'un système alternatif qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Galileo, voilà, Galileo, dont les derniers satellites vont être lancés à la fin de l'année, et qui est semi-opérationnel pour le moment pour être un petit peu indépendant de l'Amérique, parce que le GPS, les Américains peuvent arrêter le bouton et puis dire on n'a plus de GPS. C'est tout à fait possible. Rien ne peut les en empêcher. Ils ne l'ont jamais fait, mais enfin, avec l'artiste actuel, tout est possible. Voilà. On va vous parler de l'univers et la vie entre ordre et désordre. Donc Jean-Marie Vigoureux, notre conférencier magique de l'histoire de la physique, qui nous a fait l'histoire de Marie Curie cette année, au mois d'avril, qui nous a enchantés, et qui va nous parler, alors c'est un terme barbare, ça s'appelle l'entropie, l'ordre ou le désordre dans le vivant. Hein. À nouveau, une conférence sur la théorie de la lumière, de la couleur, donc de lumière au vin, un chemin ou en couleur, donc comment on peut analyser par des scientifiques tout ce qu'on ressent via la couleur et la dégustation du vin. Une conférence sur la simulation numérique de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que vous voyez, ce machin compliqué là que vous voyez qui est compliqué? C'est ce qu'on appelle le laser mégajoule. C'est une installation du CEA qui a été montée à côté de Bordeaux et qui fait quoi? Qui fait des explosions nucléaires, thermonucléaires, mais en laboratoire. Ça paraît paradoxal, hein, puisqu'une bombache, une bombe, on ne peut pas l'essayer en laboratoire, sinon on détruit tout. Alors là, il y a une astuce qui consiste à faire une petite bille de tritium qui fait 2 mm de diamètre, et puis il y a des lasers qui passent par les petites fenêtres, là, qui font des tirs sur cette petite bille et qui font, à un niveau microscopique, une petite fusion thermonucléaire. Et après, il y a tout un tas de capteurs qui regardent comment tout ça s'est passé. Donc c'est en cours de monter en charge, cette installation. Et à quoi ça sert? Ben, tout simplement à remplacer les essais nucléaires extérieurs qui ont été arrêtés à la fin des années 90. Alors vous allez me dire pourquoi on a besoin de bombes atomiques et tout, donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi faut-il faire de la simulation numérique? Ben, tout simplement pour faire le moins d'essais possible dans l'avenir et pouvoir, avec des codes de calcul dans des ordinateurs, pouvoir simuler le fonctionnement de ces outils dont on espère ne jamais avoir à se servir. Voilà. Ah, ensuite, voilà, histoire de la découverte de l'étymologie de quelques éléments chimiques, je vous ai situé le contexte, et M. Jacques Fosse, qui est notre professeur de physique nucléaire, va nous raconter des histoires rigolotes en disant ben, pourquoi l'antimoine s'appelle antimoine, pourquoi l'arsenic s'appelle l'arsenic, pourquoi le fer s'appelle le fer, pourquoi le sodium s'appelle sodium, etc., etc. Et on va découvrir des choses rigolotes. Voilà. C'est l'étymologie des éléments chimiques. Donc c'est, même pour les gens qui connaissent rien à la chimie, ça va être rigolo. Donc je vous incite vivement à venir l'écouter. Alors, je vais vous faire une conférence, même deux conférences, hein, sur l'histoire de l'aéronautique. Alors, je vais essayer de me concentrer sur la technique, puisque j'ai évoqué déjà deux conférences qui sont plus historiques et qui seront très imagées. Essayer de comprendre par quel processus l'aéronautique s'est développée. Et c'est pas si simple que ça. Alors, évidemment, il y a eu deux grands coups d'accélérateur qui sont les deux guerres. Monsieur Foléas, disons, appuiera beaucoup là-dessus, mais la période des débuts et surtout après les périodes intermédiaires, par exemple la période de post-deuxième guerre mondiale, une fois qu'on a fait les avions dits à réaction, on dit ben, finalement, à part de les grossir, il n'y a rien qui a changé. C'est complètement faux. Entre 1970, je vais jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, les grands avions commerciaux, sinon les avions militaires, ont eu des évolutions techniques tout à fait considérables, mais qu'on ne voit pas parce qu'on s'en fiche, pourvu que l'avion ne tombe pas par terre, et surtout si on est dedans. Voilà. Alors, en contrepoint de ça, toujours pareil, je vais vous parler d'Elon Musk. Alors, j'ai même pas besoin de faire de la publicité pour la pub, puisque quasiment tous les deux jours, on le voit dans les médias, et machin comme ça, il en a fait une nouvelle, quoi. Parce qu'il est toujours à faire, il fait comme Trump, il fait des tweets tout le temps. Et alors, ce gars-là, il a tout fait, il est encore riche, pourvu que ça dure. Et il a inventé des fusées qui sont réutilisables, c'est-à-dire on envoie le premier étage et puis après la fusée retombe sur ses pattes. Là, vous voyez l'atterrissage de la fusée avec des rétrofusées. Bon, c'est quand même extraordinaire. Et c'est le patron de Tesla. Tesla, c'est la voiture électrique haut de gamme, et pour laquelle il a un peu de mal à monter en cadence, parce qu'on ne s'improvise pas comme ça d'un coup de baguette magique, constructeur de voiture, et tous les autres constructeurs le regardent d'un air hostile et vont essayer de l'empêcher de s'envoler dans la voiture électrique. On verra bien. Mais au-delà de la technique, ce qui est intéressant chez ce bonhomme-là, c'est de voir la mentalité anglo-saxonne de l'entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre dans notre sensibilité française et continentale, on va dire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cet éclairage sur des personnalités qui sont différentes de nous. Le gage de schiste. Alors, c'est Matthias Schulz qui est prof à Hilaire de Chardonnay, là, c'est un jeune prof de sciences physiques et chimie, et qui nous propose une conférence tous les ans, et il nous a proposé celle-là. On a eu une conférence sur le gaz de schiste, mais il y a 7 ou 8 ans, par quelqu'un de Total, bon, qui nous a dit que c'était très bien, évidemment. Et donc là, c'est intéressant d'avoir à nouveau une révision sur ce gaz de schiste, puisque vous savez que gaz ou pétrole de schiste, actuellement, c'est ce qui fait que les États-Unis sont devenus la première puissance productrice mondiale d'hydrocarbures, ce que, rang qu'elle avait perdu dans les années 60. Et donc, M. Trump, qui est pour rien, surfe là-dessus en disant « c'est nous les plus forts, c'est nous les meilleurs ». Donc, on va écouter un petit peu cet aspect-là des choses. Alors, j'ai demandé à Jean-Louis Brûlé, qui est aussi un de nos adhérents, mais qui est responsable de la maison Niepce à Saint-Loup-de-Varenne, de nous faire une conférence sur l'histoire de la photo. Parce que, à ma connaissance, mais là je m'adresse au public, ça fait longtemps quand même que je suis à Chalon, jamais, 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 il y a eu une conférence sur l'histoire de la photographie. C'est quand même extraordinaire à Chalon-sur-Saône. Ou alors, c'est moi qui ai raté quelque chose. Alors, il y a des conférences ponctuelles sur tel ou tel aspect, Daguerre, ou ceci ou cela, ou même Niepce, si vous voulez. Mais de faire un fil continu de Nicéphore Niepce jusqu'à maintenant, à ma connaissance, ça n'existait pas. Et surtout à la connaissance de Jean-Louis Brûlé, qui est quand même au cœur du sujet. Donc, si lui, il n'en a jamais entendu parler, c'est que ça ne doit pas exister. Donc, il va nous faire cette conférence. Autre sujet, aussi tarte à la crème, un marronnier des magazines, l'intelligence artificielle. Alors, on nous rebat les oreilles avec l'intelligence artificielle. Enfin, il faut qu'on comprenne ce dont il s'agit. Notre intelligence naturelle doit être quand même suffisante pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, pour parler de ça, je n'ai pas pris un journaliste et donc j'ai pris un spécialiste de la question qui est M. Nicole, qui est professeur à Dijon, d'un labo qui utilise l'intelligence artificielle dans un domaine bien précis, mais je crois que pour comprendre il faut utiliser des exemples, c'est les profilages criminels. savez, rechercher des gens dans des populations très larges en disant, bien, voilà, tel ou tel peut être impliqué dans tel ou tel forfait ou délit. Alors, la diversité biologique et agriculture, donc M. Bourque qui vient tous les ans nous parler de ces thèmes-là, et une fois de plus, enfin, on va parler avec un scientifique. Ce que nous raconte M. Hulot, c'est vachement bien, mais c'est du domaine théologique. Il n'y a aucun exposé, disons, scientifique sur ce qui est derrière le mot biodiversité. Donc lui, il va nous en parler, et le conflit éventuel entre l'agriculture intensive et la biodiversité, qui est un vrai problème, c'est vrai, mais qu'on ait au moins des éléments tangibles et factuels sur ce thème-là. On fera d'ailleurs derrière une visite à l'INRA à Dijon pour voir un petit peu quelles sont les recherches qu'ils mènent, parce qu'il y a un gros labo à Dijon. Un autre sujet parallèle, c'est l'utilisation des algues pour la production des biocarburants. Alors ça, c'était... Vous savez qu'on critique beaucoup les biocarburants parce qu'ils viennent en concurrence avec l'alimentation, hein. On utilise des céréales, donc c'est pas génial, surtout dans les pays en développement. Donc il y a une voie possible, mais qui est encore en recherche et développement, d'utiliser les algues pour fabriquer des biocarburants. Et on va aboutir sur des sujets plus artistiques, le cinéma, l'histoire du cinéma. Donc Lacombe Lucien, on prend un thème et ensuite on prend un film qui illustre bien le thème. Et donc, Madame Assadas, elle est venue l'an dernier, nous a fait un très bonne conférence sur la figure de l'inculpé dans le cinéma, très documentée. Et donc, je lui ai demandé de revenir, d'autant plus que vous savez que monsieur Paul Jeunet est décédé d'un cancer il y a 2 mois. Et donc, notre grand désespoir, et au sien aussi. Hein, voilà. En musique, Clara Schumann et Augusta Holmès, donc ce sont Clara Schumann est le plus connue, mais Augusta Holmès, c'est des interprètes, mais aussi des compositrices, et Igor Stravinsky. Et alors là, voilà une conférence qu'on a déjà reportée d'un an, pour des raisons de santé, donc François Teinturier, que l'on connaît bien ici, qui est le directeur du groupe Laustic de musique médiévale, il va nous parler de l'histoire de la notation musicale. Et avec sa faconde inimitable, on va se régaler. On en a déjà eu un aperçu quand on a visité son exposition après Pierre de Bresse sur les instruments médiévaux. Et là, il va nous faire... Je pense qu'il va venir d'ailleurs avec quelques instruments, de faire son numéro habituel. Avec Stéphane Varnet, on fait une conférence concert et à l'auditorium. Donc, c'est un concert commenté, on va dire. Et ensuite, une conférence plus traditionnelle où on analyse, on décortique une œuvre. C'est une sonate de Brahms. Et histoire du théâtre, donc Giorgio Strehler et Patrice Chéreau. Voilà l'ensemble des conférences de l'année qui vient. Donc vous voyez que le programme est extrêmement riche, il y en a pour tous les goûts. Je rappelle que notre philosophie, c'est d'avoir un spectre le plus large possible, de telle façon que chaque personne, en fonction de sa sensibilité, de ses centres d'intérêt, puisse trouver quelque chose qui l'intéresse. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu dans toutes les conférences, mais quelquefois, trop c'est trop. Hein, voilà. On va essayer de refaire une animation à la bibliothèque, comme on a fait l'an dernier avec l'illustration dans les livres du 19e siècle. Et donc, on va essayer, puisque l'entre-deux-guerres est évoqué dans les conférences, de faire quelque chose avec la bibliothèque. Alors, je vais passer très rapidement sur la liste des ateliers. Je rappelle que ces ateliers, nous les appelons des activités complémentaires, c'est-à-dire qu'il faut être adhérent de l'UTB pour y avoir accès. Soit c'est gratuit, s'il n'y a pas d'intervenant, soit c'est payant si on doit financer la participation d'un intervenant. Donc, le mardi, dans deux semaines, toutes les personnes que vous voyez là viendront exposer dans le détail ce qu'ils font. Hein. Donc, voilà une première liste, une deuxième liste, puisque nous avons finalement 19 ateliers et activités diverses. Des langues, etc. Bon, je passe, tout ça, ça vous sera indiqué dans le détail dans la séance de mardi dans deux semaines. Et on va essayer ici ou là de faire des conférences débat à la suite d'une ou deux conférences, mais qu'on choisira d'une façon discrétionnaire à la dernière minute, enfin un mois avant. Et on a des personnes qui sont adhérentes, qui nous ont proposé des conférences. Ce n'est pas la peine d'en proposer plus, c'est plein et on a suffisamment de volontaires. Et je rappelle toujours que nous éditons des ouvrages. Alors, on s'est mis à développer cette activité-là parce que c'était le point d'aboutissement final d'une activité d'un des ateliers. Et de fil en aiguille, il y a 13 ou 14 ans, il y avait deux bouquins dans notre bibliothèque. Maintenant, il y en a 21. Et donc, on essaye de faire la promotion, de la vente de ça, parce qu'on s'aperçoit que dans nos comptes, ça nous fait un petit revenu complémentaire qui est bien agréable pour arranger notre équilibre budgétaire. Alors, en particulier, nous allons recommencer un partenariat avec la librairie Gibert, c'est-à-dire le 8 décembre, c'est un samedi, on aura un stand à la librairie Gibert, ça fait deux ans qu'on fait ça, et on vendra nos livres, tous nos livres seront présentés, on vendra nos livres, et bien sûr, ça passe à la caisse de chez Gibert, et c'est Gibert qui encaisse la marge libraire. Mais ça nous donne une visibilité qu'on a du mal à avoir en étant chez nous, si vous voulez. Autre aspect également, c'est la bibliothèque de prêt. Parce qu'on a eu des legs et on a acheté au cours des années un certain nombre d'ouvrages très variés et on dit c'est un peu dommage que ça roupille dans nos placards. Donc, il y a deux dames qui ont accepté de s'occuper de cette activité et on va recommencer de faire la promotion de cette possibilité, c'est-à-dire, vous venez, si vous êtes adhérent, vous venez regarder et emprunter des bouquins. C'est pas plus difficile que ça. Alors, effectivement, c'est pareil que les bibliothèques municipales, des choses comme ça, mais on a quelques bouquins que vous ne trouverez jamais dans les bibliothèques municipales, donc il faut venir voir. La marche qui marche très bien, c'est le cas de le dire, hein. Donc il y a une bonne organisation, donc la personne qui s'occupe de la marche viendra vous en parler, vous présentera même un petit diaporama et des voyages. Nous venons de terminer un voyage d'une semaine là en Allemagne, Vallée du Rhin et puis Aix-la-Chapelle et Trèves, on s'est régalé. Et donc les voyages, le thème des voyages, c'est d'être en relation avec des thèmes qui ont été développés dans des conférences. Voilà. Alors, un point particulier pour les habitués de l'UTB, vous avez dû remarquer, mais j'insiste à nouveau sur le fait qu'on a refondu complètement la structure de la plaquette. La partie conférence ou atelier, elle est à peu près pareille, mais on a beaucoup développé la partie fonctionnement du site Internet et la façon de s'inscrire à l'UTB et aussi à ses différentes activités. Et en particulier, j'insiste sur le fait que cette année, c'est une nouveauté, on prend les inscriptions pour les ateliers dès maintenant. Et donc ça semble fonctionner. Et ça, ça nous aide parce que pour ne pas être dans la situation de la fin octobre et d'avoir des ateliers à moitié plein alors que les gens ne se sont pas manifestés. Donc on insiste beaucoup pour que vous on vous envoyait des mails, donc tout est expliqué dans ces mails. Et bien sûr, on travaille avec tout le monde, ça va de soi. Alors, j'insiste sur le site internet qui est de mieux en mieux, hein, qu'on peut regarder sur son téléphone et sur une tablette et sur son PC chez soi. Donc, et en particulier, de pouvoir faire une alerte. Alors, je vais sortir de ça. Donc, le vrai site internet, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, le site internet aujourd'hui, le voilà. Alors, au premier degré, je le dis surtout pour les personnes qui sont nouvelles à l'UTB, tous les mois, on met en téléchargement le bulletin mensuel ici. Vous cliquez là-dessus, ça se charge. Vous pouvez revoir la plaquette annuelle et la fiche d'inscription ici, et vous avez toute la feuille des tarifs. Mais le point qui est important, c'est ce petit bandeau rouge, si vous voulez. On a souvent le problème d'une annulation, d'un changement de dernière minute, pour ne pas dire de dernière seconde, et c'est toujours très déprimant de venir à une conférence, surtout l'hiver, en disant ben zut, le gars s'est décommandé ou on est obligé, on a changé de salle. Donc, ayez le réflexe, si c'est possible, de regarder qui sur votre machine, mais surtout sur votre téléphone. Et si vous ne savez pas faire, on a acheté un téléphone UTB qui sera en permanence à l'entrée avec la dame qui s'occupe du contrôle des entrées, qui pourra vous montrer comment faire pour accéder au site de l'UTB sur votre téléphone. Et surtout, là, vous voyez cette petite bande qui vient là, en disant juste avant de venir, vous jetez un petit coup d'œil, ah ben oui, tout est bon, il n'y a pas d'alerte, donc c'est bon. S'il y a un problème de dernière minute, normalement, ce bandeau rouge apparaît et donc là vous serez averti que la conférence par exemple est annulée ou que la salle a changé. Alors pour faire les conférences, je rappelle quand même, attendez, je reviens en arrière, chose que il faut faire glisser les choses comme ça. Ici en calendrier glissant, vous avez les 6 conférences à venir qui viennent. Donc, sans aller plus loin, vous avez la visibilité à une semaine, si vous voulez. Par contre, si vous voulez voir plus loin, vous allez dans « Conférences » et vous avez toutes les conférences de l'année qui sont marquées avec les dates, les noms, les résumés, quand ils sont installés, etc. Voilà. Quand vous voulez voir une conférence, voilà, la chevalerie creuser les valeurs de l'Occident, voilà, il n'y a pas encore le résumé, et vous avez la date, le lieu et l'heure. Quand vous... si vous voulez ne voir que les conférences futures, parce que vous voyez, il y a des petits onglets qui sont en haut, à venir... Alors là, c'est la même chose, donc vous n'aurez que les conférences à venir. Et surtout, vous avez un moteur de recherche, c'est-à-dire vous cliquez sur « Recherche » et vous cherchez, par exemple, vous êtes un fanatique ou une fanatique de Mathieu Pinette. Vous allez chercher Mathieu Pinette, voilà, et vous faites « Rechercher ». Et vous voyez toutes les conférences qu'a fait ou fera Mathieu Pinette. Et à la fin, vous avez les dernières conférences de cette année, en 2018-2019, qui seront faites par Mathieu Pinette. Donc ça vous permet si vous vous êtes concentré soit sur un thème, soit sur un conférencier, soit sur un mot-clé, de retrouver la conférence qui est susceptible de vous intéresser et surtout après, vous la notez sur votre agenda ou dans votre téléphone. Et puis, dernière chose, alors ça c'est en jachère, pour le moment c'est en expérimental, c'est notre bibliothèque, on a commencé à rentrer tous les ouvrages que l'on a dans notre bibliothèque. Et quand vous voyez un ouvrage qui vous intéresse, bon ben, par exemple celui-là, Les Américains en Bourgogne, voilà, c'est un bouquin qui est très récent, hein, où se sont installées en Bourgogne les bases américaines après la guerre, hein, voilà, le petit résumé, donc vous pouvez faire une réservation et avoir une biographie de l'auteur. Voilà. Alors ça, c'est en cours de développement et surtout de chargement, puisqu'on a plus de 500 bouquins. Donc ça ne se fait pas en un jour. Voilà, voilà. Donc on peut rallumer la lampe là, derrière. Là, Donc, je vous remercie de m'avoir écouté avec patience et silence. J'ai pratiquement tenu le planning. Donc, j'écoute, je suis à l'écoute de vos demandes et de vos questions, s'il y en a. Je vous ai endormi, là. Je vois que... Non. Pas de questions particulières. Donc, si vous ne vous êtes pas encore inscrit ou réinscrit, faites-le le plus tôt possible. Passez au bureau rue Saint-Georges, soit vous envoyez votre bulletin d'inscription avec le chèque par courrier à notre adresse postale. Voilà. Merci. Oui. Je vous écoute. On va vous donner un micro.
Bonjour, je voulais savoir, on oui, m'entend
la deuxième voix, là, tu montes le numéro 2, là. Non. Attends. Là. Le bouton blanc, là. Le deuxième. Oui, celui-là. Allez-y.
Bien, merci de me donner la parole. Oui, je voulais savoir qui choisit les conférenciers, qui choisit les conférences. Voilà. Est-ce que c'est M. Fournier tout seul?
Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question.
Ou est-ce qu'il y a un comité scientifique?
Alors,
est ce comité scientifique?
Alors, le comité scientifique, on n'a pas osé utiliser le mot scientifique. On a un comité des programmes. Donc, nous sommes 7. Et on a essayé de faire que ces 7 personnes aient des sensibilités différentes, des centres d'intérêt différents. Il y a des gens qui sont très branchés sur l'histoire de l'art, d'autres sur l'histoire, d'autres sur les sciences, d'autres sur ceci, sur la philosophie, etc. Donc on essaye de faire ça. Alors, nous avons également des conférenciers fidèles. Donc l'expérience montre qu'à peu près 60% de nos conférenciers qui viennent régulièrement nous proposent naturellement un sujet. Alors, soit on l'accepte en l'état, soit on dit, bah, écoutez, ça c'est un peu ça fait double emploi avec tel ou tel thème de tel autre conférencier, donc il y a une discussion, si vous voulez. Et après, les 40%, eh bien, chacun fait des propositions, et puis on dit, ben oui, on prend ou on prend pas, donc on est 7. Et c'est relativement démocratique, on va dire. Alors, par contre, on demande également que le public lambda, c'est-à-dire on n'est pas le comité scientifique ou des programmes, comme vous dites, c'est pas une secte imperméable aux adhérents. Chaque adhérent peut dire, bah, écoutez, moi j'aimerais bien qu'il y ait une conférence sur ceci ou cela. Donc, faites remonter, bon, pour cette année, les carottes sont cuites, mais tout au long de l'année, faites remonter des suggestions et en disant, ben, on les note. A priori, on refuse pas a priori. Puis après, dans les premiers débats, et en général, ça, c'est le premier débat que l'on fait, c'est au mois de décembre de l'année en cours. Et sans faire ni de programmation ni de choix définitif, on fait un débat à bâton rompu en disant ben, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait là, il y a ce thème-là, c'était pas terrible. Bon, donc on essaye de dire ben, on, voilà, et on donne des orientations un petit peu globales. Et ensuite, en janvier, février et mars, en général, quand on se débrouille bien, et là on y est arrivé cette année pour la première fois en 13 ans, d'avoir fini fin mars. C'est-à-dire d'avoir toute la liste et d'avoir pratiquement gelé la programmation, c'est-à-dire le calendrier, qui est un exercice aussi compliqué, comme tous les emplois du temps dans l'école. Hein. Nous, on a le même problème qu'un proviseur qui fait un emploi du temps. Il n'y a rien de nouveau, on n'a rien inventé. Donc, on est à l'écoute de tout le monde. Si vous avez des demandes particulières sur telle ou telle thématique, eh bien, vous le faites, vous le proposez, et puis on en discutera, quoi, il n'y a pas de problème. Puis on en discutera avec la personne qui a fait la suggestion.
D'accord. Et les membres de votre comité, j'ai pas vu leur nom sur votre site, mais vous allez les mettre.
Ah, ben, je peux le mettre, oui.
Ben, je pense qu'il faudrait le mettre.
Ben, je peux le mettre, oui. Donc, on essaie, oui. Et d'ailleurs, il y a la dernière personne qui est venue, c'est une personne qui m'inondait de suggestions. Alors, j'ai dit, ben, écoutez, arrêtez de m'inonder, je vous embauche au comité, et comme ça, vous parlerez en votre nom propre, quoi, si vous voulez. Et en particulier, cette personne-là, je ne veux pas citer... Enfin, je peux le dire, c'est M. Emorine. Et il regarde beaucoup dans les catalogues de nos collègues, si vous voulez, de Monceau, du Creusot, de Dijon, de Besançon. Et beaucoup de conférenciers nouveaux viennent, on les trouve pas comme ça avec un fil à papillon, on les trouve dans les programmes de nos collègues, de nos confrères. Et donc on demande leurs adresses et ben on les contacte, et puis si ça marche, ben ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc en fait, on n'a pas de problème en général de trouver des gens. Le problème, c'est plutôt de choisir les conférences. Parce que la liste des conférences potentielles, elle est supérieure au nombre de cases qui sont disponibles. Donc quelquefois, on est en situation un peu délicate parce qu'on a des états d'âme sur le choix des conférences. Voilà.
Bien, je vous remercie.
Bon. Comment ?
Est-ce qu'il faut être adhérent à l'UPD pour assister à une conférence ?
Alors, deux cas de figure. Soit si c'est ponctuel, parce que c'est une conférence qui vous intéresse toute particulièrement, mais vous ne voulez pas être à l'UTB, vous nous demandez qu'on vous invite. Et donc, vous venez et c'est gratuit. Mais il faut nous le demander. Il ne faut pas passer en douce par la porte, hein, parce qu'il y a un contrôle des cartes à la porte. Si par contre, en moyenne deux fois par mois, on met des conférences qui sont ouvertes à tout public et avec un droit d'entrée de 5 euros. Par contre, seules les conférences qui ont cette mention spécifique sont accessibles aux gens de l'extérieur, d'une façon, j'allais dire, répétitive, régulière. Voilà. Voilà les deux cas de figure. Et, Oui, c'est marqué sur le. Alors, ça sera marqué. C'est pas marqué actuellement sur le site, mais c'est marqué sur le bulletin mensuel, sur le tableau des conférences. Il y a une ligne ouvert à tout public, 5 euros. Voilà. Voilà. C'est bon ? Oui.
Je suis spécialiste de civilisation. Vous êtes obligé de tenir, vous êtes là, vous m'invitez. Pas l'emploi.